VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mardi 7 novembre 2023. Au Mali, des frappes de drones sur la ville stratégique de Kidal ont fait au moins 6 morts.
La panique est hein, aujourd'hui, si vous avez une voiture en location ici, vous aurez énormément de passagers. Et ça, c'est entre guillemets, tellement que les gens sont paniqués.
Le témoignage d'un habitant de Kidal à suivre dans la partie magazine. En RDC, des morts et blessés dans des combats au nord de Goma, où s'affrontent armées et rébellion du M23. Israël exclut tout cessez-le-feu un mois après une guerre dévastatrice. Ici aux États-Unis, les électeurs votent pour élire les gouverneurs du Kentucky et du Mississippi, renouveler le Parlement en Virginie et dans le New Jersey et déterminer si l'Ohio doit protéger le droit à l'avortement. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant le journal. Au Mali, plusieurs civils, dont des enfants, ont été tués ce mardi dans des frappes de drones imputées à l'armée malienne à Kidal, bastion de la rébellion à dominante Touareg. L'armée malienne n'a pas commenté ces attaques. Davantage avec Alexandrine Lounion.
Le cadre stratégique permanent, une alliance de groupes armés à dominante Touareg, a fait état dans un communiqué de 14 morts, dont 8 enfants. Selon le CSP, des drones de fabrication turque de l'armée malienne sont à l'origine des frappes. L'armée n'a pas commenté ces attaques, mais il y a quelques jours, elle a annoncé qu'elle utilise des drones pour cibler des positions terroristes dans l'ancienne base de l'ONU à Kidal. Kidal est sous le contrôle de la rébellion. Ces groupes, qui avaient conclu un accord de paix avec le gouvernement en 2015, viennent de reprendre les hostilités. La mission de l'ONU a accéléré son retrait et a quitté la semaine passée son camp de Kidal. Le retrait de la MINUSMA a déclenché une course pour le contrôle des camps, les autorités centrales réclamant la restitution des camps.
Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, s'est entretenu avec son homologue burkinabé, Kassoum Koulibaly, en visite en Russie. De la coopération militaire entre les deux pays, a indiqué son ministère ce mardi. Les deux ministres ont convenu de renforcer les liens entre leurs pays dans le domaine de la défense, selon un communiqué du ministère russe de la défense. Dans le nord-ouest du Nigeria, des hommes armés appartenant à des groupes criminels ont tué 13 élèves d'une école coranique dans l'état de Katsina. Un porte-parole de la police a confirmé l'attaque de Katsina en avançant le chiffre de 18 blessés, dont 2 sont morts des suites de leurs blessures à l'hôpital. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des combats ont opposé les rebelles du M23 aux forces armées du nord de Goma. Au moins 3 personnes ont été tuées et une trentaine d'autres blessées, selon une source hospitalière. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken appelle à la désescalade. Yacouba Ouedraogo.
Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues à Bambo, selon des témoignages d'habitants de ce territoire du Rutshuru, à environ 60 km de Goma. Des combats ont aussi eu lieu hier et aujourd'hui vers Kibumba, à une vingtaine de kilomètres de Goma. La société Virunga Energy a annoncé hier soir une coupure de courant à Goma à cause des dégâts sur une de ses lignes de distribution causées par ces affrontements entre FARDC et M23. Elle a indiqué que la situation a été rétablie de manière temporaire. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu séparément par téléphone avec les présidents rwandais Paul Kagame et congolais Félix Tshisekedi. Selon un communiqué du département d'État, il a plaidé en faveur d'une solution diplomatique aux tensions entre les deux pays, exhortant chaque partie à prendre des mesures pour désamorcer la situation, y compris le retrait des troupes de la frontière. Kinshasa et de nombreuses sources accusent le Rwanda de soutenir les rebelles du M23, ce que dément Kigali.
En Afrique du Sud, la ministre des Transports, Cindy Suwe Chikunga, a été braquée à bord d'une voiture près de Johannesburg et ses gardes du corps dépouillés de leurs armes, a indiqué aujourd'hui la police. Dans des circonstances qui restent encore floues, les malfaiteurs ont attaqué le véhicule et dérobé des effets personnels et 2 armes à feu, a déclaré la police dans un communiqué. Le tribunal de Constantine a condamné aujourd'hui à 10 ans de prison par contumace l'opposante franco-algérienne Amira Bouraoui et à 6 mois ferme le journaliste Mustapha Benjama, accusé de l'avoir aidé à s'enfuir en France selon des médias algériens, et Khaled Draderini, représentant de Reporters sans frontières.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 32e jour. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rejeté les appels à un cessez-le-feu. Claire Morin-Gibou.
Les bombardements israéliens ont continué. Selon le Hamas, plus de 10 300 personnes ont été tuées dans l'enclave palestinienne depuis le début de la guerre. L'OMS et MSF ont appelé à une trêve humanitaire. Hier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a de nouveau écarté un cessez-le-feu à Gaza sans la libération de nos otages. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a reconnu mardi qu'Israël s'attendait à une guerre longue contre le Hamas. En Israël, une minute de silence a été observée dans plusieurs villes et institutions, dont le Parlement, à la mémoire des plus de 1400 personnes qui ont péri dans l'attaque du 7 octobre. Après deux jours de suspension, les évacuations ont repris hier au point de passage de Rafah, la frontière égyptienne. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, entame ce mardi une visite de 5 jours au Moyen-Orient.
Les habitants de plusieurs États américains se rendent aux urnes ce mardi. Dans certains États, les électeurs doivent voter sur des problématiques sociales controversées, comme dans l'Ohio, où la protection du droit à l'avortement est sur la sellette. Le point avec Dilly Dico.
L'État de l'Ohio, contrôlé par les Républicains, vote pour décider s'il inscrit la protection du droit à l'avortement dans sa Constitution. Un scrutin test qui sera suivi de près à travers le pays, puisque la Cour suprême a mis fin à l'arrêt qui garantissait le droit fédéral à l'interruption de grossesse des Américaines. L'Ohio se prononce aussi sur la légalisation du cannabis. Et les électeurs votent par anticipation depuis des semaines. La question de l'avortement sera dans tous les esprits dans 2 autres scrutins, au Kentucky et en Virginie, où se tiennent des élections législatives. Tous les sièges de l'Assemblée sont en jeu. Si les Républicains l'emportent, cela permettrait au gouverneur Glenn Youngkin de tenter d'imposer des restrictions sur l'avortement. En Pennsylvanie, les électeurs sont appelés à faire leur choix sur la personne qui va occuper le siège vacant à la Cour suprême de l'État. Et au Mississippi, le gouverneur républicain Tate Reeves cherche à se faire réélire face à un cousin d'Elvis Presley.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré ce mardi que son pays a déployé de nouveaux systèmes de défense antiaérienne fournis par ses alliés occidentaux en prévision d'une nouvelle vague d'attaques russes contre ses infrastructures énergétiques. Cet hiver, des frappes sur le système énergétique de l'Ukraine ont laissé des milliers de foyers sans chauffage durant l'hiver dernier. Le premier ministre portugais Antonio Costa a démissionné aujourd'hui à la suite d'une enquête contre son gouvernement portant sur des soupçons de corruption dans l'attribution de concessions d'exploration de lithium et de production d'hydrogène. Le Premier ministre qui a annoncé sa décision lors d'une allocution télévisée, après avoir rencontré le président Marcelo Rebelo de Sousa, a dit avoir la conscience tranquille et être pleinement disponible pour coopérer avec la justice. Pour la première fois en tant que roi, Charles III a prononcé ce mardi le discours du trône au Parlement britannique, dans lequel le gouvernement conservateur de Rishi Sunak a cherché à présenter une vision à long terme à l'approche des élections. Le discours du roi n'a rien dévoilé de nouveau ce mardi, mais a servi de recueil des différentes mesures que Rishi Sunak a prises depuis qu'il a été propulsé à la tête du gouvernement l'an dernier par les déboires de ses deux prédécesseurs conservateurs Boris Johnson et Liz Truss. Et puis, le prix Goncourt 2023 a été attribué aujourd'hui à Jean-Baptiste Andrea pour son roman Veiller sur elle, l'iconoclaste, dans lequel il raconte la vie d'un sculpteur de génie et prix d'une aristocrate dans l'Italie de l'entre-deux-guerres. Jean-Baptiste Andrea, âgé de 52 ans, est aussi réalisateur et scénariste. Il a déjà été récompensé par le prix du roman Fnac en août dernier. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Mouamadou Mfa.
Après une autre année difficile pour l'activité économique des pays d'Afrique subsaharienne en 2023, l'activité devrait repartir à la hausse dans la région en 2024 et afficher un taux de croissance de 4% dans les 4 cinquièmes de ces pays, prévoit le FMI. Mais ce rebond n'est pas garanti.
si les réformes tardent à se faire, que l'instabilité politique s'y accroît ou qu'un risque extérieur se matérialise, la croissance pourrait être compromise, dit le FMI. L'édition 2023 de la Semaine du numérique s'est ouverte lundi à Cotonou, capitale économique du Bénin, et se déroulera jusqu'au 10 novembre. Placée sous le thème « Quelle technologie émergente pour l'accélération de la transformation numérique des États ?», cette Semaine du numérique vise à contribuer au renforcement de la transformation numérique du Bénin grâce à la promotion de l'innovation et de l'inclusion numérique. En Tunisie, les services de la dette extérieure ont frôlé la barre des 3 milliards de dollars sur les 10 premiers mois de l'année 2023, a révélé lundi la Banque centrale de ce pays. D'après la même source, les avoirs nets en devises ont baissé et se situent autour de 8 milliards de dollars, l'équivalent de 113 jours d'importation. D'après la banque, les réserves nationales tunisiennes en devises émanent essentiellement des recettes touristiques.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean Rouget, bonsoir à tous.
L'édition 4 de la Basketball Africa League passera à 3 conférences.
Oui, en plus des 2 conférences habituelles, celles du Sahara et du Nil, la saison 2024 va être marquée par de nouvelles innovations, dont une 3e conférence en Afrique du Sud, annonce faite aujourd'hui à Dakar au Sénégal par le président de la Basketball Africa League. Les précisions avec notre correspondant sur place, Wahani Johnson Sambou.
Bienvenue au siège de la Basketball Africa League ce matin pour l'annonce de la saison 4 de la Basketball Africa League qui s'annonce très très passionnante.
Une 3e conférence pour donner plus de piquant à la Basketball Africa League. Après la conférence du Sahara au Sénégal, la Nil en Égypte, la Kalahari en Afrique du Sud vient agrandir la bière dans cette saison 4, avant le Final 8 de Kigali au Rwanda. Amadou Galofal, président de la BAL.
D'abord, les compétitions, il y a 10 matchs de plus que les autres saisons. On va jouer 48 matchs au finish au lieu de 38. Et puis aussi, la manière dont on va jouer les matchs. Chaque jour de match, l'équipe locale va jouer.
Les ingrédients sont donc réunis pour rendre la saison 4 de la Basketball Africa League plus que passionnante. Et il suffit juste de regarder dans le rétroviseur avec l'exceptionnel dénouement de la saison 3 à Dakar comme à Kigali. Des scénarios dignes des plus gros chocs en NBA et un engouement de plus en plus passionnant à ravir le président de la BAL, Amadou Galofal.
Les matchs et les événements de l'année dernière pendant la saison 3 ont vu 70 000 personnes se sont déplacées dans les arénas de ces 3 pays, ont assisté aux différents événements qu'on a organisés. Les matchs ont encore une fois été diffusés dans 214 pays à travers le monde.
En attendant plus de détails, sachez que la conférence du Nil se tiendra en avril et celle du Sahara au mois de mai prochain. Wahadi Johnson Sambou pour VOA Afrique, Dakar.
Ici en NBA avec les résultats de la nuit dernière.
Les Sixers de Joel Embiid ont engrangé une 5e victoire consécutive face aux Wizards de Washington 146 à 128 avec un match énorme du MVP camerounais en titre 48 points, 11 rebonds et 6 passes décisives. Rapidement mené de 20 points par les Pelicans, les Nuggets de Denver ont réussi un retour pour s'imposer à domicile 134 à 116. Les Mavericks l'ont emporté 117 à 102 en Floride face aux Magic d'Orlando et les Warriors vainqueurs 120 à 109 des Pistons à Détroit avec 34 points de Stephen Curry. À noter aussi parmi les autres matchs la défaite de LeBron James et des Lakers face à son ancien club de Miami 108 à 107. Les Spurs d'un Victor Wembanyama limité à 13 points ont encaissé une lourde défaite sur le parquet d'Indiana 152 à 111. À Minneapolis, les Wolves ont infligé aux Celtics de Boston leur première défaite de la saison 114 à 109 après prolongation. La soirée a surtout été marquée par les débuts de James Harden avec les Clippers, eux aussi battus à New York 111-97.
Page d'Esport VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Mali, l'armée s'est signalée à Kidal. Une source locale a indiqué que les drones des FAMA ont procédé à des frappes aériennes visant les positions des rebelles Touareg. Des sources concordantes indiquent qu'au moins 6 personnes ont été tuées, mais une coalition de groupes armés rebelles avance un bilan de 14 morts. Pour en savoir davantage, Idriss Fala joint dans la ville de Kidal un habitant qui a voulu garder l'anonymat.
Effectivement, ce matin, c'est passé quelque chose d'extrêmement grave. Il y a eu 2 à 3 frappes de drones. Et malheureusement, toutes les victimes, c'est des civils, y compris des enfants. La première frappe a fait un bilan en victime de 6 morts et 22 blessés, dont 2 enfants. Et ensuite, il y a une seconde frappe qui a pris aussi un leader, disons, des maires. Il y a un maire de Sous, le troisième adjoint de Sous, troisième maire de Kidal, c'est la ville de Kidal, et puis un ingénieur qui s'occupe de l'urbanisme, une autre personne aussi, donc chef de fraction. Voilà en gros ce qui s'est passé ce matin entre dans l'intervalle de 8h à 9h.
Est-ce que les leaders de la CMA ont réagi à ces attaques?
La CMA n'a pas réagi. La CMA n'a pas réagi. En tout cas, à ce que je sache, je n'ai pas senti une réaction juste en ce moment où je parle de la CMA.
Est-ce qu'on sait qui est-ce qui a fait ces attaques de drones? C'est l'armée malienne?
Il y a une première frappe avant ça, hein, avant-hier. Avant-hier, il y a une frappe comme ça. Heureusement qu'elle n'a pas fait de victimes. Selon des dires, c'est des drones, effectivement, de l'armée malienne.
Est-ce que la CMA occupe toujours l'ancien camp des casques bleus?
La CMA ne se trouve pas dans l'enceinte des casques bleus. La CMA n'est pas dans l'enceinte de l'emprise de la munition. Ils sont en dehors de l'enceinte.
Et qu'est-ce qui occupe cette enceinte alors?
Juste après le retrait de la munition. Le camp a été envahi par la population qui partait ramasser certaines choses. Sinon, ce n'est pas occupé par la CMA.
J'imagine la panique à Kidal.
La panique, hein, sauf qu'il peut. Aujourd'hui, si vous avez une voiture en location ici, vous aurez énormément de passagers. Et ça, c'est entre guillemets, hein, tellement que les gens sont paniqués.
Et que l'armée tient absolument à entrer dans Kidal. Parce qu'ils sont à Nefis.
C'est vrai que ça, c'est l'objectif premier de l'armée, c'est de rentrer à Kidal.
Vous craignez des affrontements dans Kidal même ou bien?
Et nous craignons des affrontements. Nous, parce que l'armée tient coup de coup à rentrer, la CMA est là. Alors, voyant ce qui se passe, on s'est dit que l'affrontement est inévitable.
Un habitant de la ville de Kidal.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Direction l'Est de la RDC, où lors des affrontements d'hier lundi, entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise, la ligne haute tension de la société Virunga Energy, alimentant Goma en électricité, a été touchée par des tirs. Une situation qui a plongé une bonne partie de la ville et toutes les localités voisines du territoire de Nyiragongo dans le noir. Cette coupure a causé beaucoup de dégâts, comme nous le dit Zanem Neti Zaidi dans ce reportage.
Depuis 18h hier lundi, Mouroula Isaac, gérant d'un bistrot au quartier Katoy, s'est tourné les pouces.
C'était dans la soirée hier que le courant a été coupé sans que nous ne sachions la raison. Nous avions beaucoup de clients à la terrasse et partout ici, tous sont partis. Le matin, nous avons juste fait les travaux de propreté sans qu'aucun client ne vienne car nous n'avions pas du courant. Nous venons de passer une très mauvaise journée faute du courant électrique.
Dans un communiqué rendu public par la société Virunga Energy la soirée d'hier, les habitants ont été avertis des conséquences qui pourraient découler de cette coupure du courant, notamment celle touchant les structures sanitaires. Ghislain Bahati, un médecin de la ville.
Ce n'est pas vraiment facile à vivre, les stress que le personnel soignant a lorsqu'il y a coupure d'électricité. Les hôpitaux utilisent en permanence de nombreux appareils électriques pour soigner les patients ou pour les maintenir en vie. Par exemple, les patients qui sont dans des soins intensifs.
Dans une région en conflit armé comme le Nord Kivu, les habitants doivent toujours avoir une autre source d'énergie pour parer à toute éventualité, soutient Evariste Iragui, un jeune analyste sociopolitique.
Il faudrait agir sur un levier important, selon les il faut se doter des énergies alternatives qui peuvent secourir lorsqu'il n'y a plus d'énergie. C'est alors intéressant que aussi bien les familles, les hôpitaux, mais également les industries puissent avoir aussi des énergies du type solaire qui peuvent être là à tout moment, mais également avoir des groupes électrogènes qui peuvent venir en rescousse lorsqu'il y a coupure d'énergie.
Dans l'après-midi, ce mardi, les solutions qualifiées de temporaires viennent d'être mises en place par la société Virunga Énergie pour alimenter en électricité la ville de Goma, une ville sous menace du M23. Zanem Netizaidi à Goma pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
La 31e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain est célébrée ce 7 novembre. Notre correspondant au Gabon, Ismaël Obiang-Nze, nous fait découvrir Raphaël Misère-Kouka, qui est poète, anthologiste, essayiste, critique littéraire et biographe.
À 66 ans, Raphaël Misère vit et ne respire que pour les livres. Toute une passion de jeunesse façonnée par le terreau scolaire. Avec les mots de tous les jours, Raphaël Misère-Kouka jette un regard personnel sur la réalité affligeante de l'Afrique. Il est auteur d'une vingtaine d'ouvrages.
Je suis en classe de quatrième et j'écris déjà un texte de près de 120 pages. Alors mon premier ouvrage, c'est Une Jamina Fontaine Rouge, qui parle de la guerre du Tchad, qui a régné au Tchad pendant les années. J'ai reçu, disons, des amis tchadiens, comme les Khalil Fort, d'ailleurs, à qui je dédie cet ouvrage, et qui sont venus à Brazza pour apprendre en tant qu'étudiant. Alors ça m'a beaucoup marqué.
Influencé par les grands poètes, Aimé Césaire, Lamartine, Jean Écart, Senghor ou encore Camara Lai, pour ne citer que cela, Raphaël Misère se sert de l'écriture comme baromètre de la société.
L'écriture devient une sorte, disons, de thébaïde, une sorte de catharsis, disons, pour l'écrivain, parce que lorsque la société souffre, ben, ça impacte justement sur l'écrivain que je suis.
Malgré le succès de ses publications, Raphaël Misère se heurte aux mêmes difficultés que ses collègues africains. Car au Gabon, comme un peu partout en Afrique subsaharienne francophone, l'achat d'ouvrages concerne surtout une classe sociale aisée, une bourgeoisie qui se développe, des étudiants mais aussi des expatriés.
Il y a effectivement un problème de l'accessibilité au livre et surtout un problème de politique, disons, du livre, parce que le ministère de la Culture qui aurait pu le faire, mais le ministère de la Culture ne traînait pas.
L'écriture de Misère-Kouka, c'est d'abord et surtout une excessive transparence. Une transparence totale qui ne laisse subsister ni ombre ni reflet. Un style qu'il vaut une intégration en 2003 dans le Gotha des lauréats de l'Académie des sciences, des lettres et arts de Marseille. Une distinction née de la publication de l'anthologie des poètes gabonais d'expression française, édité chez l'Harmattan.
C'est un couronnement, pas seulement de moi, mais c'est surtout, disons, que tout seigneur, tout honneur, il faudrait dire que c'est le couronnement de la poésie gabonaise, parce qu'en fait, ce sont des textes gabonais qui ont été primés. Hein, donc, c'est pas Misère-Kouka n'est que, si vous voulez, la passerelle. Voilà.
Enseignant d'anglais à la retraite depuis 2009, Raphaël Misère persiste et signe « La littérature, c'est toute sa vie, jusqu'à son dernier souffle ». Ismaël Obiang-Nze pour VOA Afrique, Libreville.
Dans Washington Forum cette semaine, les États-Unis à un an de la présidentielle de 2024. Un nouveau duel Biden-Trump semble se dessiner de plus en plus. L'ancien président, malgré les poursuites judiciaires le visant, domine toujours la course chez les républicains. Un sondage publié dimanche le donne même vainqueur face à Joe Biden dans plusieurs états clés, suscitant l'inquiétude auprès de responsables démocrates. Comment interpréter un éventuel nouveau duel Biden-Trump? Quel sujet intéresse déjà les électeurs américains pour 2024? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
Ici aux États-Unis, un nouveau sondage montre que l'ancien président américain Donald Trump est devant le président Joe Biden dans les intentions de vote de 5 États clés pour la présidentielle en 2024. Les électeurs citent notamment leurs inquiétudes sur l'âge de M. Biden, l'économie et le nouveau conflit entre Israël et le Hamas. Nathalie Barge relate un compte-rendu d'Anita Powell.
L'enquête d'opinion du New York Times et de Siena College prédit que Donald Trump devancera Joe Biden dans 5 des 6 États clés. Elle examine les questions habituelles comme l'économie, la sécurité nationale et l'immigration, mais aussi la façon dont les électeurs perçoivent la gestion par le président du conflit entre Israël et le Hamas. M. Biden sillonne le pays pour convaincre les Américains. Lundi, dans son état natal du Delaware, il a vanté un effort de 16 milliards de dollars d'investissement le long de la côte atlantique.
25 projets différents, tous destinés à construire le corridor nord-est de Boston à Washington, font partie de mon programme d'investissement en Amérique. Et je me bats pour cela depuis longtemps.
Donald Trump a également pris la parole lundi alors qu'il arrivait à New York pour comparaître dans une affaire de fraude civile qu'il affirme politiquement motivée.
Les résultats de leurs sondages sont terribles. Vous montrez ce qui s'est passé aujourd'hui dans le New York Times et CBS a publié tout cela. Je suis en tête partout. Mais c'est une situation très injuste. C'est vraiment une ingérence électorale. C'est un peu ridicule.
Les sondeurs affirment qu'il n'est pas surprenant que les Américains soient aussi partagés, mais certains remettent en question ce sondage, comme Mark Mellman, directeur du groupe de plaidoyer Majorité démocrate pour Israël.
Quiconque a prêté une attention particulière à la politique américaine au cours des dernières années supposerait que la course sera serrée. Les sondages ont toujours montré que la course est serrée. Je pense que ce sondage est un peu aberrant. Il montre plus de soutien à Trump dans certains de ses États que dans d'autres sondages.
Certains analystes estiment que des prévisions aussi loin des élections sont prématurées. C'est l'avis de Todd Belt, professeur de gestion politique à l'université George Washington.
Les gens avec qui j'ai parlé au sein de l'équipe Biden m'ont dit que, premièrement, c'était beaucoup trop loin. Deuxièmement, ils pensent que lorsqu'il s'agit d'élections générales avec un choix binaire entre Joe Biden et Donald Trump, Biden l'emporterait car ils ne veulent pas retourner au chaos des années Trump.
Joe Biden et Donald Trump ont affiché tous les deux un fort soutien à Israël. Dans une déclaration envoyée à la Voix de l'Amérique, la campagne Biden a déclaré ne pas s'inquiéter d'un simple sondage.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Mignon à ce micro. à la mise en onde de Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.